d'emploi. Mode d'emploi.
Vous êtes sur 106.3, Fréquence Paris Pluriel, l'émission Mode d'emploi, l'émission des chômeurs et des précaires, avec ce soir des journalistes du PIAF et des membres de Attaque.
Et nous recevons ce soir Martin Drago, juriste à la Quadrature du Net, qui viendra nous parler de la technopolis, enfin de tout ce qui nous menace technologiquement, surtout informatiquement, mais aussi avec des caméras dans notre univers. Mais nous allons attaquer par les chroniques d'actualité. Alors l'actualité de quel jour ? Ben aujourd'hui, nous sommes évidemment le 12 juin, même si nous enregistrons ici deux jours avant, le mercredi 10 juin. Mais les chroniques d'actualité sont quand même toutes fraîches et elles sont signées Jean-Marc. La première a un titre qui restera dans les annales de l'émission, « Ça me turlupine dans le robinet ».
Alors, dans la fameuse guerre anti-Covid, décrite avec moult moulinets par Micron premier, il y a surtout une guerre de com' entre les États, entre les labos et les lobbies. Mais il y a aussi, de façon annexe, une guerre des chiffres aussi ridicule que préoccupante. Tous les États mentent plus ou moins sur leurs chiffres en les minorant, volontairement ou par manque de moyens statistiques fiables, et de façon plus ou moins grotesque. Cependant, ce qui est le plus grotesque, c'est la façon dont, à partir de ces chiffres douteux, les journalistes établissent des comparaisons pour le moins douteuses. Vous avez tous fait des problèmes de robinet avec des profs de maths ignobles quand vous étiez petit. En voici un très simple que même un journaliste de BFM pourrait comprendre. Sachant qu'un pays A compte 328 millions d'habitants et qu'un pays B en compte 67. Comparez le nombre de victimes du Covid. Le pays A compte 123 000 victimes, le pays B 38 000. Lequel des deux pays en proportion a le plus grand nombre de victimes ? D'après la presse française, la réponse est le pays A. Mais si j'en crois le robinet, les États-Unis étant 5 fois plus peuplés que la France, si les États-Unis avaient un taux de mortalité équivalent à celui de notre doux pays, ils devraient compter à ce jour 185 000 victimes. Nos journalistes sont-ils tous incapables de ce calcul basique ?
Alors, Jean-Marc ne fait pas que des mathématiques, il fait aussi usage de mots compliqués. Par exemple, sa brève suivante s'appelle la brève hémétique.
Eh oui, parce que ça m'a donné vraiment envie de vomir. Au milieu des grands plans de sauvetage économique du gouvernement égrené jour après jour, ce dernier s'apprête à bombarder des milliards sur l'aéronautique, ce qui est drôle en termes d'écologie, puisque c'est tout de même l'un des secteurs industriels les plus polluants de la planète. Mais c'est surtout très drôle lorsqu'on apprend que Dassault, non seulement avionneur mais aussi marchand d'armes, aux bénéfices colossaux, risque d'en bénéficier. Il est vrai que la fortune de la famille Dassault ne s'élevait qu'à 23,8 milliards d'euros en 2018, rien que pour l'officiel, et que ces braves gens ont bien besoin d'une aide publique qui manquera quand il s'agira d'aider l'hôpital, l'école ou d'autres services publics. Donc, d'où le titre de ma brève, brève hémétique, parce que j'ai vomi un bon coup.
Alors, tu as vomi, tu as fait des maths, et en faisant des maths, tu fais donc des statistiques, hein, dites donc. Et les statistiques, ça sera justement le sujet de la chronique d'Alex tout à l'heure, qui va essayer de nous expliquer un peu plus finement ce qui peut faire vomir quand on lit mal un document statistique en médecine.
On va parler de robinet, mais ça va être un petit peu plus sophistiqué.
Alors, on continue avec les chroniques de Jean-Marc, et vu qu'on va maintenant parler, évidemment, des municipales.
Alors, le gouvernement ne nous déçoit jamais, il nous a bien amusés avec le Covid, et il y a toujours une mauvaise décision à prendre, une décision dégueulasse, et bien en général, il prend les deux. Et bien, c'est ce qu'il a fait avec les municipales. Après avoir maintenu, quels que soient les risques, le premier tour, ce qui a généré une abstention record, le gouvernement totalement conscient de l'erreur et des résultats somme toute ni démocratiques ni représentatifs de ce premier tour, a donc décidé de maintenir le deuxième tour. Bravo. Le deuxième tour va donc écraser un peu plus ce qu'il restait des petites listes, renforcer encore les sortants et donner une carte municipale totalement hors sol. Mais comme un certain nombre de maires ont été élus dès le premier tour, avec 20 ou 25% des électeurs inscrits, comme ce cher Darmanin, ce si sympathique ministre, sans que cela choque le gouvernement, pourquoi se priver ?
Municipal encore.
Alors on a un match intéressant, c'est à Paris. Nous avons le match d'un zombie contre un revenant. L'élection parisienne est particulièrement intéressante. En effet, en décembre, Hidalgo était donné en ballotage plutôt défavorable. Quelques mois plus tard, alors que son bilan politique forcément n'a pas changé, son bilan écologique et financier non plus, la voici, grâce à ceux qui avaient juré de la déboulonner, pour ne pas les citer, La République En Marche, en pole position pour une réélection triomphale. Acte 1 de ce retournement, la branlette à Griveaux. Incroyable et inespéré. Acte 2, La République en marche parachute Buzyn qui n'a jamais fait campagne électorale. Incroyable et inespéré. Acte 3, le Covid défaire, interrompt le processus électoral après avoir sabordé le premier tour, en mettant en charpie en plus l'image de Buzyn. Incroyable et inespéré. Acte 4, contre toute logique démocratique, le gouvernement maintient le deuxième tour. Incroyable et inespéré. Acte 5, La République en marche maintient Buzyn, qui est en plus, du reste, mise en cause dans le rapport de la commission d'enquête sur Lubrizol. Incroyable et inespéré. Bref, sans rien faire, grâce à la bêtise incroyable de La République En Marche, Hidalgo sera réélue, sauf si elle aussi postait une vidéo olé olé, mais on imagine mal, sans problème, et pourrait faire un quasi grand chelem.
Mais je crois que tu as encore envie de nous parler des municipales, mais là, tu dis qu'il y a des gens trop géniaux à parler.
Bah ouais, La République En Marche, Gilles Legendre et compagnie, ces gens trop géniaux. Le parti des gens trop intelligents, vous savez, si La République En Marche peut compter sur ses cadors, jamais méprisants pour le bas peuple. La délicate Marlène Schiappa a ainsi déclaré que Buzyn n'avait aucune chance, mais aussi et surtout, ça on s'en fout, mais surtout ce qui est plus intéressant, c'est que dans sa série de SMS qui ont été révélés, il y en a un délicat dans lequel est la scène. J'ouvre les guillemets. « Aller tracter porte de Vanves, c'est vouloir vendre des iPods à des sourds. Rendons-nous à l'évidence, ce quartier ne vote pas pour nous. C'est contre-productif de faire campagne là-bas. » Sympathique, non? Alors la même s'est encore illustrée en disant qu'elle ne souhaitait pas être Premier ministre. Qu'on la rassure, tout le monde s'en fout et personne ne lui a proposé.
Donc là, tu es en train de nous faire le tour de Paris, vu que tu vas encore nous parler des municipales. Une petite avant-dernière?
Ouais, allez, on se fait plaisir, c'est la saison. Depuis l'annonce du maintien du deuxième tour, les magouilles sont allées bon train. Première fausse surprise, il n'y a pas qu'à Paris, hein, mais là je commence par Paris, les écolos parisiens, comme d'habitude, comme toujours, après avoir joué les graves rebelles et les indépendants, se couchent avec les socialistes en échange de trois sucettes. Comme d'hab, les militants sont furax, mais ça continue. Deuxième fausse surprise, dans plusieurs villes, des sortants de droite, en passe d'être sortis, se sont alliés avec des Républiques en marche. La presse dit « Oh là 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 !» Mais en fait, la droite qui s'allie avec la droite, où est le problème? Ça semble tout à fait logique. Troisième fausse surprise de ces élections, Colomb, ex-PS Rose Trépal, ex-ministre de Macron, qui ne sait pas se servir d'un micro, s'allie avec Wauquiez, ex-étoile de l'UMP, chef débarqué des Républicains, et les deux pourraient essayer de sauver les meubles. Logique. Deuxième type, deux types sans scrupules, mais avec beaucoup d'ambition, rien de surprenant, juste un petit problème olfactif, c'est très odorant.
Bon, là, franchement, à rabâcher, tu vas encore nous parler de municipal, là,
c'est ouais, ça? Ouais, et là, c'est sur un cas particulier. C'est le cas de deux ministres, le premier et Darmanin. Le premier ministre, Philippe, se trouve face à des règles habituelles en démocratie. Il y a deux règles ou traditions républicaines qui s'appliquent aux ministres qui posent problème à l'exécutif. La première est qu'un ministre qui s'engage dans une élection et la perd doit démissionner. La deuxième est qu'un ministre élu doit immédiatement démissionner soit de son poste, soit de son mandat. Darmanin aurait donc dû démissionner de l'un ou de l'autre après son élection à Tourcoing le mois dernier. Mais sauvé par la situation Covid et le sens des petits arrangements de La République En Marche, Darmanin a un sursis jusqu'au deuxième tour, au moins jusqu'au 28 juin. Le cas Philippe est encore plus drôle, parce qu'il y a trois conséquences de sa candidature au Havre. Première hypothèse, Philippe est battu. Il devrait donc démissionner. Deuxième hypothèse, Philippe est élu et désire rester maire. Il devrait donc démissionner de son poste de Premier ministre. Troisième hypothèse, Philippe est élu mais démissionne de son mandat de maire. Il peut rester Premier ministre, mais cela voudrait dire que depuis le début, il s'est payé la tronche des Havrais. Nous pourrions peut-être ajouter un potentiel numéro 4, qui fait très LREM. Élu ou battu, Philippe reste Premier ministre sous prétexte de crise sanitaire, à la demande du président, car il serait trop indispensable.
En même temps, c'est pas une mauvaise idée.
Bon allez, on arrête l'actualité du Canard Enchaîné. On passe maintenant à la revue de presse de Politis, c'est ça, Gaël? Tu vas nous faire une chronique qui va parler d'énergie, d'écologie et de traités internationaux.
Oui, je vais vous parler du traité sur la charte de l'énergie. Alors, vous savez, l'Union européenne affiche un grand volontarisme en matière environnementale et nos dirigeants se sont engagés dans l'accord de Paris à agir pour limiter le réchauffement planétaire à 1,5 degré. Le Parlement européen a même déclaré l'urgence climatique. Ils ont juste oublié un détail, c'est le traité sur la charte de l'énergie, TCE, dans lequel l'Union s'est engagée en 1990. Ça a été signé par l'Union européenne avec 53 autres pays. Et ce traité est peu compatible avec la transition énergétique. On va voir pourquoi. L'objet de ce traité, c'est d'offrir une protection aux investissements relatifs à l'exploration, l'extraction, le raffinage, la production, le stockage et le transport de l'énergie. Et un des principes qui le fonde, c'est la neutralité énergétique. C'est-à-dire qu'un kilowattheure, c'est un kilowattheure, peu importe qu'il ait été produit par une éolienne ou par une centrale à charbon. Donc ce n'est pas vraiment adapté au développement des énergies propres. Parmi les signataires, on trouve de riantes démocraties comme le Kazakhstan ou le Turkménistan, qui sont de gros producteurs d'hydrocarbures. Donc en pratique, le TCE protège essentiellement les énergies fossiles, alors qu'elles jouent un rôle majeur dans la crise climatique. Le principal outil du TCE pour saboter la transition énergétique, c'est le mécanisme de règlement des différends entre investisseurs et États, en abrégé ISDS, c'est le sigle anglais. C'est un mécanisme qu'on retrouve dans la plupart des traités de libre-échange et qui permet aux investisseurs étrangers d'engager des poursuites contre les États s'ils jugent qu'un texte de loi, une décision de justice ou toute autre mesure porte atteinte à leurs droits d'investisseurs et touche à leurs intérêts économiques. Les poursuites se déroulent devant un tribunal d'arbitrage qui est composé non pas de magistrats indépendants mais d'avocats d'affaires qui sont généralement favorables aux intérêts des entreprises. Ces tribunaux, entre guillemets, peuvent ordonner au gouvernement de verser aux entreprises des milliards d'euros d'indemnités. Et donc, tout pays qui adopterait une loi qui prévoit, par exemple, de stopper progressivement le charbon ou d'interdire les nouveaux projets de forage ou d'extraction minière, s'exposerait à des réclamations de la part des entreprises de ce domaine. Et ainsi, depuis 1990, ce sont 128 actions qui ont été intentées par des entreprises contre des États au nom du TCE. Pour vous donner une idée de l'argent public qui est perdu à cause du TCE, début 2020, le montant cumulé des dédommagements demandés au gouvernement atteignait 52 milliards de dollars. Un exemple fameux, c'est celui de Vattenfall contre l'Allemagne. Vattenfall, c'est une multinationale suédoise de l'énergie qui a engagé une procédure contre l'Allemagne en 2009. Elle réclamait 1,4 milliard d'euros d'indemnisation à cause des normes environnementales qui étaient imposées à sa centrale à charbon près de Hambourg. Et pour échapper à cette sanction, la municipalité a dû accepter d'assouplir ses exigences environnementales. En 2012, Vattenfall est revenu à la charge quand le Parlement allemand a voté l'accélération de la sortie du nucléaire à la suite de la catastrophe de Fukushima en 2011. Et cette fois, l'entreprise réclame 6,1 milliards d'euros pour la perte de bénéfices de ses centrales nucléaires. Et l'affaire est toujours en cours. Alors même si ces procès sont spectaculaires, en fait, ils ne représentent qu'une partie du pouvoir de nuisance de ce mécanisme. Souvent, il suffit de brandir la menace de poursuite pour entraver des décisions politiques. Si bien que certaines politiques environnementales sont édulcorées ou abandonnées par crainte de réclamation en justice. C'est ce qui est arrivé en 2017 au pauvre Nicolas Hulot quand il était ministre de la Transition écologique. Il a présenté un projet de loi pour arrêter l'exploration et l'exploitation des hydrocarbures sur le territoire français d'ici 2040. Et le texte interdisait la délivrance de nouveaux permis d'exploration et le renouvellement des permis d'exploitation. Les avocats de l'entreprise pétrolière canadienne Vermilion ont alors envoyé une note au Conseil d'État pour signaler que ce projet de loi portait atteinte à ses droits d'investisseur au titre du TCE et menaçait de poursuivre la France devant des tribunaux d'arbitrage. Et donc finalement, il n'y a pas eu de procès, puisque suite à ces pressions, le gouvernement a fait marche arrière, la loi a été modifiée en autorisant le renouvellement des permis d'exploitation pétrolière jusqu'en 2040, voire au-delà. Et même si on se retire du TCE, on continue à le subir. Le TCE comporte en effet une clause de survie selon laquelle ces dispositions continuent de s'appliquer pendant 20 ans après le retrait du pays. Par exemple, l'Italie a voté en 2015 un moratoire sur les opérations pétrolières et gazières à proximité de son littoral. En 2016, elle s'est retirée du TCE, mais en 2017, elle a été attaquée au titre du TCE par Rockhopper, une société d'énergie qui s'estimait lésée par ce moratoire. Les entreprises de l'énergie utilisent le TCE non seulement pour contrer des politiques environnementales, mais aussi des politiques sociales. On a déjà utilisé le TCE pour contester les prix réglementés de l'énergie, qui pourtant permettent de maintenir le chauffage et l'électricité à des niveaux abordables, sachant qu'aujourd'hui, 41 millions d'Européens sont dans la précarité énergétique. Quant à remunicipaliser ou nationaliser des installations énergétiques ou des réseaux de distribution, là, vous n'y pensez même pas. Un fournisseur d'énergie tchèque a déjà engagé une procédure contre l'Albanie quand celle-ci a révoqué son autorisation de distribution d'énergie. Alors, un mince espoir dans ce monde de brut, c'est que l'Union européenne propose de réformer le traité. Mais sans toucher aux mécanismes de protection des investissements, qui sont pourtant le point central, et sans objectif contraignant pour protéger l'environnement. L'Union européenne propose juste que le TCE, je cite, « contribue à la réalisation des objectifs de l'accord de Paris ». C'est très vague et ça n'engage à rien. Et surtout, tout amendement au traité doit être adopté à l'unanimité des membres. Or, le Japon, qui est signataire du traité, s'oppose à toute modification, et vous imaginez bien que ceux qui vivent sur une rente pétrolière ou gazière, ne veulent rien changer. Donc aujourd'hui, face à l'urgence climatique, la seule solution, c'est de se retirer tout simplement du traité ou d'y mettre fin. Et c'est ce que réclament 278 syndicats et organisations de la société civile du monde entier. En France, on trouve notamment ATTAC, les Amis de la Terre, le CCFD Terre Solidaire, la Confédération Paysanne, le collectif Stop TAFTA, Droit au Logement, la Fondation Copernic et plein d'autres organisations. Voilà.
Et on imagine une belle collusion entre les grands groupes industriels, anciens monopoles d'État et certains politiques pour que ce traité suffise à faire peur rien que dans son existence. Pas besoin d'aller au procès pour suivre la logique de ce traité. Alors, eh ben on va faire une petite pause. Alors avec une petite question, qui autour de cette table ou en régie a arrêté de fumer depuis quelques années ? Ah, je vois trois mains qui se lèvent. Trois mains qui se lèvent, dont on peut l'applaudir, quelqu'un qui a fait son arrêt il y a quelques semaines, quelques mois maintenant. Et pourtant, nous allons écouter une chanson qui s'appelle « Toi aussi » par The Closey Sisters.
Si toi aussi, t'en as marre si toi aussi, de travailler, toi aussi, t'en as marre si toi aussi, de toi bosser, aussi. Moi aussi, et comme on en a tous marre à un moment dans la vie, maintenant c'est à toi. 1, 2, 3, 4.
106.3, fréquence Paris pluriel, l'émission Mode d'emploi, l'émission des chômeurs et des précaires, avec ce soir des journalistes du PIAF et des membres de ATTAC.
Et nous recevons en invité Martin Drago. Bonjour.
Bonsoir.
Bonsoir. Tu es juriste à la Quadrature du Net. Alors la Quadrature du Net, on en reparlera un peu plus tard, mais si vous tapez ce mot compliqué, vous trouvez tout de suite sur n'importe quel moteur de recherche un site web bien fourni, bien complet, des articles faciles à lire et agréables à lire, et qui parle d'un sujet un peu compliqué. Alors un peu compliqué, mais dont on parle de plus en plus avec l'application Top Covid, avec d'autres faits d'actualité. Alors parfois on parle de science-fiction, de peur, de théorie du complot. On peut trouver un mot pour désigner ça. C'est entre autres la technopolis, l'aptitude à être surveillé par la police, par différents organes nationaux ou internationaux, grâce à la technologie. Alors est-ce que toi tu penses à cette théorie du complot ?
Ouais, bah, quand on bosse tous les jours dedans, ce qui est mon cas, en essayant de chercher un peu, je pense que nous on définit à Technopolis comme un peu les nouveaux dispositifs utilisés par la police pour nous surveiller. Et c'est assez intéressant de voir justement l'évolution des technologies là-dedans et l'imagination dont il est fait preuve aussi bien par les industriels de la sécurité que par la police et les collectivités qui passent ces trucs. Et c'est vrai que en bossant tous les jours dedans, on voit on peut être complotiste peut-être, mais il y a beaucoup, beaucoup de trucs qui se font et des trucs qui font assez peur. J'aime bien parler par exemple. Alors c'est vrai qu'on avait vu au moment de Stop Covid et au moment de la crise sanitaire énormément de technologies de surveillance se développer ou être mises en lumière, qui existaient et qui ont été révélées. Le premier, c'est évidemment cette application qui est aujourd'hui disponible malheureusement sur les applications mobiles pour se surveiller entre nous et voir qui est malade et aussitôt un peu se faire peur entre chacun, quoi. Bonne nouvelle, pour l'instant, apparemment, elle serait utilisée par moins d'un pour cent de la population française, ce qui montre que c'est un premier échec du gouvernement. On a vu aussi la surveillance par les opérateurs de télécommunications. Assez intéressant de voir que Orange, assez rapidement, a pu sortir des chiffres sur les déplacements de population en France. Notamment, il avait claironné sur toutes les radios que, je parle de il, c'est-à-dire Stéphane Richard, le PDG, que 17% des Parisiens étaient partis de Paris juste avant le confinement. En fait, personne ne s'est trop étonné de ce chiffre, mais quand on y réfléchit, en fait, c'est des chiffres qui sont obtenus de façon sûrement illégale. Pourquoi ? Parce que c'est basé sur nos données personnelles, nos données de télécommunications. Et ça, le gouvernement, finalement, on sait que Orange et le gouvernement, en fait, on se sont aidés mutuellement avec des chiffres qui sont obtenus illégalement et dont il manque encore un peu de contentieux pour faire sanctionner, finalement, cet usage illégal. Et puis, malheureusement, avec la crise sanitaire, on a vu se développer les drones. Les drones, il faut voir que nous, on les avait vus, qui surveillaient depuis quelques années les manifs, notamment, et les camps de migrants ou la Méditerranée. Et là, on les a vus utilisés de façon massive, on peut le dire, par rapport à la police et la gendarmerie, avec un haut-parleur pour diffuser des consignes sanitaires que tout le monde connaissait, mais aussi pour filmer et sanctionner les gens qui ne respectaient pas le confinement.
Alors, ces trois exemples, on peut avoir un débat de société, c'est-à-dire, est-ce qu'on en veut, on n'en veut pas ? Là, tu appelles à stop non, Covid, c'est malheureux, tu emploies ces genres d'expressions, on peut être tout à fait d'accord avec toi, vu que toute la population est d'accord avec toi. Mais sur le moment où on avait la peur du virus, la peur du voisin, la peur de mourir pour soi, pour ses proches, c'est des moments où finalement, c'est très bien pour les technologies. Hein, on peut imaginer un petit peu comme le virus qui nous envoie, puis il trouve une faille dans notre cerveau, dans notre société, il s'engouffre. C'est un petit peu le thème de ces trois cas. Et finalement, c'est plus de la science-fiction. C'est vrai, c'est des faits avérés. Ces trois exemples prouvent bien que la technologie nous envahit d'un point de vue technopolis. Il y avait d'autres exemples dont tu voulais parler, un peu moins connus et un peu plus précis, ouais, avec une volonté politique plus locale.
Alors, il y en a un que j'aime bien, qui alors aujourd'hui est abandonné, mais on sait que plusieurs municipalités réfléchissent à la réutiliser. C'est l'exemple de Saint-Étienne. En fait, Saint-Étienne, le maire, c'est Gaël Perdriau, républicain, comme par hasard, et qui, en fait, a voulu développer l'année dernière un truc qui s'appelle Serenity City. Donc, partenariat toujours à Technopolis, on va toujours avoir un partenariat privé et public. Et là, Serenity City, c'était un projet d'une entreprise qui appartient à 100% à Vernet Caron. Et c'est ceux qui fournissent les flashballs, notamment à la police nationale. Et du coup, Serenity City...
Des gens bien, donc.
Des gens magnifiques, ouais. Et du coup, le projet, c'était... Donc, il était en trois étapes. Le premier, c'est des capteurs sonores qui se déclenchent automatiquement face à des bruits préenregistrés. C'est-à-dire, vous criez dans la rue, tout de suite, ça déclenche une alarme pour la police municipale, qui ensuite peut arriver sur place. C'était assez intéressant de voir, on avait récupéré toute la liste des bruits qui faisaient captation et alarme. Il y avait la scie circulaire, les cris, les bruits de verre, les bruits d'accident, enfin, une douzaine de bruits, quoi, qui déclenchaient cette alerte. Et ensuite, la deuxième étape, c'était décollage automatique de drones pour aller voir sur place ce qui se passait. Et seulement en troisième étape, on avait un humain qui arrivait pour dire « Ok, qu'est-ce qui se passe vraiment ?» Le projet, il est aujourd'hui abandonné parce que pour une fois, la CNIL s'est bougée et a dit, en fait, la CNIL, donc l'autorité de protection de la vie privée en France, elle a dit, non, en fait, ça, c'est pas possible. L'intelligence artificielle et les sons, etc., il n'y a pas de cadre législatif, donc on n'en veut pas. Mais c'était un peu pour voir, et ça, je trouve, c'est assez un bon exemple de voir ce qu'ils sont prêts à faire et de penser aux drones qui décollent avec des alarmes de sons et de capteurs sonores dans la rue. En fait, on n'est pas du tout dans la science-fiction, on est vraiment dans la réalité. Vous pourrez trouver sur notre site tous les documents, donc laquadrature.net, tous les documents de la mairie, qu'on avait récupéré de la mairie, sur ce projet. Vous verrez des petits dessins et du marketing là-dessus, c'est assez joli. Et ensuite, un truc assez concret, c'est la vidéosurveillance automatisée, ce que du côté de Thalès, on va plutôt appeler vidéoprotection intelligente. Et qui est en fait un nouveau type de vidéosurveillance qui se développe partout, notamment à Marseille, et qui va, même chose que pour les capteurs sonores, partir du principe qu'en fait la police a trop d'images à regarder. Il y a trop de caméras de vidéosurveillance aujourd'hui dans les rues, et du coup il faut aider les policiers à se concentrer sur juste ce qui est important. Et du coup l'intelligence artificielle va leur permettre de se concentrer sur des alertes Et ce qui est le plus connu, c'est les détections de comportements suspects.
Intelligence artificielle et police, il n'y a pas une antinomie.
Il y a artificielle, quand même.
Et du coup, non, c'est assez intéressant. Et un des cas assez précis que je trouve intéressant, c'est le laboratoire de Châtelet. En fait, il faut savoir que la RATP, aujourd'hui, a développé un laboratoire d'intelligence artificielle à Châtelet où elle teste ses algorithmes de détection automatique. Sur qui ? Bah, sur nous, hein, sur les passagers et les passagères du métro. Et en fait, on voit notamment qu'elle a, pour elle, un des comportements suspects, c'est le maraudage. Et le maraudage, c'est quoi ? C'est de rester 300 secondes sans bouger sur le quai du métro. Et à partir de ce moment-là, vous déclenchez tout de suite une alerte dans le centre de supervision de la RATP. Voilà, c'est des petits exemples assez précis, mais qui, en fait, petit à petit, en fait, nous entraînent vers des trucs assez graves. Le dernier algorithme testé à Châtelet, c'est la détection automatique de masques. On sait aussi qu'à Nice, ils réfléchissent à la détection automatique d'émotions avec une start-up de Metz qui s'appelle Too High et qui donc fait des statistiques sur l'émotion des gens dans le tramway le lundi matin. Et on a toujours été assez intéressés de voir leurs résultats sur des tels chiffres. Voilà, pour panorama de ces technologies développées.
Tout ça pour moderniser la fameuse phrase bah, « comme un lundi ».
Alors, des exemples, on en connaît dans le monde et qui paraissent de la science-fiction au vu d'un Français. C'est typiquement en Chine, la capacité de détection faciale pour aller aux toilettes plusieurs fois dans la journée, et ce fameux calcul du coefficient automatisé d'aptitude sociale à être dans une société bien réglée, bien régie, où les gens finissent par perdre des accès de droits, on va dire, basiques au déplacement, dans un pays où déjà les droits de déplacement sont très limités, en fonction de données purement informatisées. Donc la science-fiction, on dit que c'est pas de la science-fiction, c'est de la science, quoi.
Ouais, alors nous, l'exemple chinois, on nous le sort assez souvent, il faut faire des débats avec les parlementaires, hein, si ça vous intéresse. Souvent, nous, on nous dit « Ah, mais attendez, mais nous, on n'est pas la Chine, justement, on va développer la reconnaissance faciale éthique ». C'est ce mot-là qui est pas mal dans la bouche, notamment de Didier Bécher, qui pousse pour la reconnaissance faciale en France. C'est hyper intéressant parce qu'en fait, bah, à bosser tous les jours dedans, en fait, on voit que la Chine n'est pas tellement éloignée de ce qu'on fait et que même si ça se trouve, on fait des trucs beaucoup plus graves chez nous. La reconnaissance faciale, par exemple, elle existe déjà en France. Hein, la police peut déjà faire de la reconnaissance faciale de masse avec un fichier qui s'appelle le fichier de traitement des antécédents judiciaires. Rapidement, j'espère que si je ne suis pas trop long, faut me le dire. Hein. En gros, un fichier de police qui regroupe toutes les personnes qui ont été à un moment concernées par une enquête. Non pas condamné à un moment, hein, mais soupçonné. Et en fait, vous avez été soupçonné, on vous a pris votre photo, on vous a mis dans ce fichier. Et à partir de ce moment-là, en fait, si vous êtes par exemple dans une manif et que vous faites des bêtises, et que si la police s'intéresse à vous, elle peut essayer de comparer, de capter votre visage avec la caméra, et de comparer si, retrouver votre identité pour voir si vous avez déjà été concerné par une enquête. Normalement, vous pouvez vous faire enlever de ce fichier une fois que vous savez que vous n'avez pas été condamné. Le problème, c'est que ça ne marche jamais, c'est extrêmement compliqué, etc. Donc ça... Dans ce fichier, il y a, on le sait, 8 millions de photos, selon une enquête du Sénat. En fait, c'est déjà pas mal comme reconnaissance faciale de masse dans la rue. Comme type. Et puis la reconnaissance faciale, elle a été testée déjà en France, à Nice, pendant le carnaval. Et puis, on a déjà beaucoup d'applications diverses. On peut penser, par exemple, aux aéroports, hein, ou à la gare. Maintenant, il y a des portiques qui s'appellent Paraf, développés par Idemia, notamment, qui vous permettent de passer, censément, plus rapidement ou pas... à travers les contrôles douaniers, en comparant la photo qui est dans votre passeport biométrique avec la photo que la caméra voit.
Faut enlever ses lunettes, sinon on passe pas. J'ai testé.
C'est vrai ?
Oui. Sans lunettes, je peux rester coincé, personne ne voit. Si on va aller un cran plus loin, je sais pas si là on rentre dans la science-fiction, j'essaie de trouver où la science-fiction commence. Dans les films d'espionnage, typiquement Le Bureau des Légendes, qui est une série qui essaye d'être, paraît-il, au plus près des réalités, on voit des techniciens de la DGSE, c'est plus la police, c'est un grade un peu différent, ils ont plus de droits, peut-être, pour des raisons différentes, être capable d'activer la puce d'un téléphone portable à distance, même si le téléphone est lui-même éteint. Est-ce que ça, dans tes connaissances, ça fait partie de la science-fiction, ou est-ce qu'on est déjà dans des choses tout à fait réelles ?
Alors moi, je connais pas. Donc du coup, j'aurais du mal à dire là-dessus. Pourquoi pas, hein, mais pour l'instant, ça dépasse mes connaissances. Ou c'est pas encore ce qu'on a vu.
C'est pas ce que vous avez vu ou repéré.
Non. Mais... Après, faut voir si on peut entrer dans la science-fiction. Mais il faut m'arrêter aussi. En fait, on voit beaucoup de luttes se faire contre la reconnaissance faciale. Notamment à Hong Kong, hein, avec des dispositifs de laser ou des maquillages, etc. Et de ce que nous, on a vu des industriels, c'est qu'en fait, ils se moquent bien déjà un peu de ces types de luttes, parce qu'eux sont déjà à l'étape d'après, qui est la détection de démarches ou de silhouettes. Et la détection de démarches, qui apparemment est déjà en marche en Russie, en fait, aller essayer de vous protéger d'une caméra en changeant votre démarche, bah, en fait, là on tombe, c'est quasiment impossible, quoi. Donc on voit qu'ils ont toujours, malheureusement, pensé l'étape d'après, quoi. Mmh.
Bon, on va peut-être faire une petite pause musicale à ce moment-là. On va écouter un petit morceau d'une chanson de circonstance, bien sûr. C'est Starmania, la chanson-titre Monopolis.
New York à Tokyo, tout est partout pareil. On prend le même métro. Dans le dos et une étoile sur la peau. On suivra gaiement le troupeau.
Fréquence Paris Pluriel 106.3, l'émission Mode d'emploi, l'émission des chômeurs et des précaires, avec ce soir des journalistes du PIAF et des membres de ATTAC.
L'utopie de Starmania nous replonge dans notre interview avec Martin Drago qui vient de nous parler de Technopolis. Il est juriste à la Quadrature du Net. On vient de donner une série d'exemples assez effrayants à la limite de la science-fiction, mais non, c'est bien notre quotidien de drones qui s'envolent en fonction de surveillance automatisée de la police et des projets dans certaines villes de maxi-surveillance automatisée. Alors maintenant, on va passer à la phase critique, parce qu'à la Quadrature du Net, et toi particulièrement en tant que juriste, vous avez une critique précise de ça. Alors une critique d'un point de vue politique et une critique d'un point de vue juridique.
Bon, la critique au point de vue politique, elle est simple, hein. C'est la peur de la surveillance de masse qui marche rarement du côté du gouvernement, mais qui fait assez peur quand même, c'est-à-dire une ville totalement surveillée, chacune... Déjà, on peut se dire que sur Internet, notre comportement est entièrement surveillé. Et là, on voit se déployer ces outils sur la voie publique qui en font finalement une surveillance complète. Les drones, d'ailleurs, là-dessus, c'est hyper intéressant. On avait au début une surveillance par caméra fixe qui allait nous surveiller dans la rue. Petit à petit, maintenant, il y a les caméras piétons qui agrandissent finalement, donc les caméras piétons qui sont sur les gendarmes et la police, qui agrandissent cette surveillance. Et puis maintenant, il y a les drones qui permettent de filmer un peu constamment et de haut. Donc on arrive à une surveillance complète. Et là-dessus, bah, nous, rapidement, on va faire les liens avec des auteurs qu'on aime bien, notamment Michel Foucault et tous ses développements sur la panoptique. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on se sait surveiller, notre comportement est modifié finalement, et on est... en fait, ça atteint notamment notre vie privée, mais aussi notre façon d'aller et venir dans la rue. On ne va pas bouger, on ne va pas manifester si on sait qu'on peut être reconnaître demain. Donc finalement, l'incident sur les libertés, il est énorme. Nous, derrière, on essaye de transformer ça. Un de nos combats, ça va être le combat juridique. Alors évidemment, ce n'est pas le seul combat à la Quadrature, parce que rien que pour Saint-Etienne, je me rappelle, il y a eu des manifestations qui étaient assez cool, hein, des gens qui sont allés faire de la fanfare dans les quartiers où il y avait des capteurs sonores. Je trouve que c'était un bon moyen de lutte. Il y a aussi l'affichage qui marche toujours bien. Mais nous, on essaye aussi avec le contentieux de faire sortir des arguments un peu légalistes qui, quelquefois, passent. On a eu deux victoires au niveau des tribunaux. Un sur des portiques de reconnaissance faciale à l'entrée des lycées dans la région sud. C'est évidemment Estrosi et son camarade Ciotti qui essayaient de faire ça dans deux lycées. Bon, on a gagné au bout d'un moment.
Amoureux de la liberté.
Ouais, c'est assez hallucinant ce qu'ils ont comme imagination. Bon, le tribunal administratif de Marseille les a sanctionnés et a arrêté le projet, ce qui est plutôt positif. Et une des plus grandes victoires, je pense, de la Quadrature, c'est il y a deux semaines contre les drones de la préfecture de police de Paris, où le préfet allemand qu'on aime tous avait fait une équipe de 20 personnes pour diriger tous ces drones pendant le confinement. Et le Conseil d'État, après un recours qu'on a formé avec la Ligue des droits de l'homme, bah en fait, a redonné au préfet de poser ses drones. Donc là, ça fait deux semaines que le ciel de Paris est libre de drones. Donc ça montre que le contentieux marche. Nos arguments, ça va être des arguments basés sur la vie privée, la liberté d'aller et venir, et un argument un peu légaliste mais intéressant qui est l'absence de cadre juridique. En gros, toute nouvelle atteinte à une liberté doit être légale, c'est-à-dire encadrée par un cadre juridique spécifique. Et tous ces nouveaux types de surveillance, que ce soit vidéo, surveillance automatisée, finalement intelligence artificielle, n'est pas du tout encadrée par le droit. Et c'est ce que reconnaît notamment le Conseil d'État sur les drones en disant, bah là, on a un nouvel outil de surveillance qui n'est pas du tout encadré. C'est-à-dire que la police pouvait faire n'importe quoi avec ces drones parce qu'ils n'étaient même pas dans le cadre critiquable pourtant de la vidéosurveillance fixe.
Mais l'état d'urgence sanitaire suffisait pas à couvrir ce genre d'agissement ?
Non, non, justement, on va dire heureusement, c'était peut-être un des trucs qui suffisait pas. Ils ont essayé de se mettre dedans, notamment au moment du contentieux du Conseil d'État, mais ça n'a pas marché parce que vraiment tout juriste regardait ce truc et c'était incroyable de voir la préfecture de police de Paris qui disait « Ah non, nous on ne respecte rien sur les drones ». Mais ils l'ont dit en face, tu vois. Et ça, c'était hallucinant de voir que ils pouvaient filmer, reconnaître... Il y a tout un cadre intéressant dans la vidéosurveillance qui est on ne peut pas filmer chez les gens par la fenêtre des gens. Donc il faut des caches informatiques pour chaque caméra de vidéosurveillance fixe. Et là, la préfecture disait non, mais nous, on ne peut pas faire ça sur les drones parce qu'en fait, c'est trop compliqué de faire ça. Et du coup, ils pouvaient filmer chez les gens pareil. Quoi. Voilà. Bon, on n'a pas gagné pour longtemps. Il y a un arrêté qui va sortir pour essayer d'encadrer ça, qu'on attaquera peut-être s'il est mauvais.
On a l'impression que là, il y a certains lobbies, peut-être politiques, mais aussi économiques, qui sont à l'entrée de l'Assemblée pour essayer de changer une virgule parfois dans certains textes et rendre caduque tout recours possible et puis aussi plus visible des députés qui arrivent avec des textes de loi liberticides mais au nom de notre sécurité.
Ouais,
et ça,
toujours.
Vous arrivez à résister, vous arrivez à avoir une évolution là-dessus.
Ouais, il faut voir la puissance de Thalès, hein, notamment. Même Thalès a quasiment pas besoin de faire lobbying tellement le gouvernement en fait pour lui. C'est-à-dire que nous, il va toujours nous dire sur la reconnaissance faciale et vidéosurveillance, attendez, la reconnaissance faciale, vous avez vu comme les États-Unis, la Chine et la Russie avancent, il nous faut notre champion français. Sinon, on va en souveraineté nationale, on va tout perdre. Et donc, c'est pour ça qu'il va pousser Thalès un max, il va le subventionner. Il y a un gros projet qui s'appelle Safe City de Thalès, qui est un ensemble... De surveillance des réseaux sociaux, des caméras, des capteurs, etc., qui a été financé à plusieurs millions par la Banque publique d'investissement et la Commission européenne. Donc voilà, c'est vachement poussé aussi. Et puis il y a des lobbies assez forts. Hein. Il faut penser à l'ANDV, on ne la connaît pas beaucoup, c'est l'Association nationale de vidéoprotection, qui invective souvent en débat les associations et la CNIL en leur disant mais vous allez mettre au chômage des milliers de personnes qui travaillent dans les capteurs sonores. Le lendemain de la décision de la CNIL sur Saint-Etienne, c'est exactement ce qu'ils disent en disant j'ai vu des entreprises de surveillance sonore qui ont fermé leurs portes, ça c'est à cause de vous. Voilà. Donc en face on n'est pas beaucoup, mais on fait ce qu'on peut.
Le monde de demain ressemble à celui d'hier, hein. C'est exactement les mêmes arguments qu'on a utilisés pour développer la bombe atomique, les missiles et les avions de chasse en France. De manière générale, tout le trafic d'armes.
Oui, mais enfin, vous me parlez de peur, là, de théorie du complot, mais on a quand même quelqu'un pour nous sauver, on a la CNIL.
Ouais, alors la CNIL, nous, on aime bien en parler à la Quadrature du Net. Hein. On va dire que c'est une autorité qui est créée en 78, hein, en même temps que la loi informatique et liberté, avec le premier article de la loi informatique et liberté, c'est l'informatique doit être au service du citoyen. On voit finalement que depuis 78, malheureusement, le combat, il est quand même assez perdu. Hein, quand on voit la surveillance qui s'est faite sur la publicité sur Internet et aujourd'hui la surveillance dans l'espace public, on se demande où est la CNIL. La CNIL, on peut lui faire plusieurs critiques. C'est vrai, un manque de moyens. C'est-à-dire qu'en fait, par rapport à toutes les plaintes qui lui sont faites, elle n'a pas les moyens financiers et les moyens humains de faire les contrôles et les sanctions qu'il faudrait. Mais derrière, il y a sûrement, et il faut la faire une critique politique, elle a des moyens juridiques, notamment dans le Règlement général sur la protection des données personnelles, qui est un texte européen, où elle peut sanctionner l'État, elle peut même attaquer au contentieux l'État. Et en fait, elle ne le fait jamais. Les deux décisions que nous, on a eues sur Technopolis, c'est Saint-Étienne et les portiques de reconnaissance faciale, mais ces deux décisions, on lui a mis une pression de folie, quoi. On a fait un article, on a fait de la communication sur Saint-Étienne en disant « mais on ne veut pas de ça ». On a fait notre propre contentieux pour les portiques parce qu'elle n'agissait pas. Et sur les drones, même chose, on fait notre propre contentieux parce qu'elle n'agit pas. Et c'est assez fou de voir sur les drones où, le jour même de la décision du Conseil d'État, on a un communiqué de la CNIL qui nous dit « Ah oui, oui, mais alors nous, on s'y était intéressés il y a 2 semaines, on a commencé les contrôles. Mais on est où, quoi ? C'est très bizarre comme communiqué de la part d'une autorité. Alors que, bizarrement, l'autorité de la concurrence, qui est le même type d'administration au niveau juridique, elle sanctionne tout le temps. Pourquoi ? Parce que je pense qu'elle obéit à la loi du marché et que du coup, ça va peut-être plus facilement de son côté.
Donc la CNIL n'est pas assez active, comme on dit, mais elle joue au moins son rôle de vérification des textes.
On pense qu'elle fait des contrôles. Objectivement, on sait que dedans, qu'il y a des gens qui bossent et qui font des contrôles. Le problème, c'est que ces contrôles, ils sont secrets. On ne sait pas s'ils les font, quand ils les font. Il n'y a pas de publicité de ces contrôles. Il n'y a pas très peu de publicité de ces sanctions. Donc c'est aussi ça le problème. On aimerait lui dire, si vous faites des contrôles comme sur les drones, vous avez l'air d'en faire, mais dites-le en fait. Et au moins qu'il y ait un débat public dès le début, mais on ne va pas attendre 20 ans que vous faites une sanction sur les drones. Et c'est pour ça que du coup, nous, la Ligue des droits de l'homme et d'autres associations, on est obligé de passer à côté, de passer par le juge, parce qu'en fait, on ne fait plus assez confiance à la CNIL pour agir.
Et donc, ce « nous » que tu emploies régulièrement, c'est la Quadrature du Net. Donc, c'est une association, son fait le plus visible, sa façon la plus facile de la voir, on en parlait, c'est le site Quadrature du Net.
Quadrature.net.
Quadrature.net.
La quadrature.net.
Un bon jeu de mots. et dans ce site, on trouve beaucoup de documents très lisibles, puis aussi des documents beaucoup plus techniques et juridiques. Est-ce que tu peux nous parler un peu de l'association elle-même ?
Oui, alors l'association, elle a plus de 10 ans maintenant. Elle a été créée en 2008, au moment des combats sur Hadoopi, hein, donc le partage libre d'œuvres sur Internet. Petit à petit, on s'est en fait diversifié et on a vu que le sujet du numérique commençait à grandir et à inquiéter pas mal au niveau des libertés. On peut dire qu'aujourd'hui, on s'attaque aussi bien à la surveillance et à la censure que celles-ci viennent des États ou des groupes privés. Typiquement, la censure, on va avoir la censure d'États terroristes, etc. Puis on va avoir la censure des GAFAM qui aujourd'hui ont pris une place sur les libertés d'expression énormes. Même chose pour la surveillance, qu'elles viennent des États ou des entreprises privées. Et aujourd'hui, on se concentre un peu sur tous ces nouveaux combats. On est 5 salariés et une quinzaine de membres. Sur ce thème de la technopolis, parce que je vois que mon temps arrive à la fin, j'invite fortement les gens intéressés. On a créé un espace qui s'appelle le forum de Technopolis, c'est forum.technopolis.fr, où justement on a mis des outils juridiques, on a mis des outils de communication, des affiches à disponibilité. On invite tout le monde vraiment à aller sur ce forum pour faire de la veille et de la lutte ensemble, parce que c'est vraiment un problème de communauté, de collectif, et c'est souvent des problèmes locaux. C'est-à-dire qu'en fait, c'est souvent une petite mairie qui va décider d'acheter un logiciel de vidéosurveillance automatisée. Et il faut qu'au niveau local, les gens se saisissent de cette question. Ils n'hésitent pas à venir nous voir en disant « Ah ben, moi, j'ai vu ça, qu'est-ce qu'on peut faire pour lutter contre ça ?»
Donc, on va sur le site quadrature.net, on accède au forum qui est indiqué
à partir ou même directement forum.technopolis.fr. Et tout est expliqué là-dessus.
Tout est là-dessus. Donc, si on veut créer une petite lutte locale, on a les textes explicatifs et on peut demander des
voilà, on a fait une boîte à outils pour aider peut-être les gens qui auraient besoin d'aide à justement se motiver, voir ce qu'il fallait regarder, où chercher et quoi faire après.
Et si on a la chance de ne pas avoir de combat local à mener, on va dire que c'est quand même une chance, si on veut aider la Quadrature du Net, on peut faire de la publicité autour de
faire
vous.
Faire de la publicité, on a évidemment besoin de dons, hein. On ne marche que par le don des gens, donc on n'a pas d'aide de l'État. Et c'est sur don.laquadrature.net, et ce serait hyper sympa de
d'accord,
notre part.
Pour faire vivre 5 salariés, il faut du don quand même.
Toujours, malheureusement, ouais.
Comme toujours. Eh bien, merci Martin pour tout ça. On espère que vous n'avez pas eu le poil qui s'hérisse sur les bras en écoutant cette technopolis qui nous investit. On continue avec des choses qui nous font peur, les statistiques du professeur Raoult. Non, mais pas seulement celles-là, les statistiques qui critiquent le professeur Raoult. Bref,
Alex et nous pas parle. Seulement celles-là, effectivement. En gros, c'est un peu.
Est-ce qu'il y avait un drone dans les chiottes de l'INSERM ou pas?
Tu leur demanderas, je sais pas. Tu demanderas à la CNIL. Ils ont peut-être une idée. Et en gros, ouais, c'est un petit peu. On s'était pas concerté avec Jean-Marc, hein, mais on a un petit peu le même constat. J'irai un peu plus loin que lui. Donc c'est mi-coup de gueule, mi-constat désabusé. Une des victimes oubliées du Covid, c'est les statistiques. Donc depuis 3 mois, il y a des médecins, des économistes, des sociologues, des politiques qui font n'importe quoi avec les statistiques. Parce qu'ils cherchent dans les nombres, dans les chiffres, la vérité. Donc c'est innumero veritas, après le 20. Et donc de préférence, en plus avec le Covid, ce qui est chouette, c'est qu'on a des chiffres qui claquent. C'est des chiffres de mort. Et on va pouvoir démontrer qu'on a raison.
Les chiffres de la mort qui tue.
Exactement. On va pouvoir démontrer des choses avec des chiffres mortels. Et donc évidemment, ils utilisent ces chiffres en oubliant les réflexes élémentaires qui consistent à vérifier comment les données sont collectées, quels sont les biais éventuels, et ils surinterprètent les données parce qu'ils les utilisent pour défendre leur théorie. Et donc j'ai commencé par gentiment attaquer quelqu'un qui plutôt de notre camp habituellement, hein, Éloi Laurent, qui est un économiste plutôt de gauche, qui a publié un article dans Alter Echo qui est problématique, pour rester gentil. Et l'article commence fort, donc « La France est l'un des pays qui a subi les plus fortes pertes humaines liées au Covid-19, non pas parce qu'elle a été davantage exposée, mais parce qu'elle a été plus vulnérable. » Autrement dit, et comme il le précise plus loin, la mortalité très forte en France s'expliquerait pas par un nombre de cas très élevé, mais par une fragilité extraordinaire du système de soins français. Et il utilise un chiffre, enfin un ratio, pour le démontrer, c'est le ratio infecté sur décès. C'est-à-dire le rapport entre le nombre de personnes infectées et le nombre de personnes mortes du Covid après avoir été infectées. Donc ça, c'est bon. Moi, j'avais déjà utilisé ce chiffre-là, ce qu'on appelle, ce que je préfère appeler le taux de mortalité apparent. Et donc, effectivement, on prend le nombre de morts et on le divise par le nombre de personnes infectées officiellement. Le problème, c'est que c'est un chiffre qui est catastrophiquement mauvais pour faire des comparaisons entre pays. Ça n'a aucun sens. Et donc, je vais même vous donner quelques chiffres, vous allez comprendre tout de suite pourquoi ça n'a aucun sens. Si on le calcule pour la France, on obtient 18,95%. Donc, c'est juste totalement dingue. C'est-à-dire que 18,95% des personnes qui ont été testées en France sont mortes du Covid. Si on fait le même calcul pour l'Allemagne, on trouve 4,66%. C'est beaucoup mieux en Allemagne. 4,66% des personnes qui ont été testées sont mortes. Si on fait le même calcul en Islande, chiffre du monde, ça s'appuie sur le Johns Hopkins University, 0,55% des personnes qui ont été infectées par le Covid en Islande sont mortes. C'est-à-dire très précisément 10 personnes sur 1807. Voilà. Alors, est-ce que ça veut dire pour autant que le système de soins est 40 fois moins efficace en France qu'en Islande ? On voit tout de suite que ça n'a aucun sens. Strictement aucun sens. Par contre, il y a un moyen d'expliquer ces disparités complètement dingues, c'est le nombre de tests. Ben oui, en France, on teste extrêmement peu. On teste uniquement les gens qui vont à l'hôpital. Donc, ben, c'est un tamis qui est très très lâche. Donc, on ne teste que des gens qui sont dans un état très grave. Et aux autres, on leur dit, surtout, vous testez pas, restez chez vous, prenez du paracétamol. Et surtout, venez pas encombrer les hôpitaux. Donc, ils ne seront pas testés. En revanche, en Allemagne, on teste nettement plus. On teste 4 à 5 fois plus. C'est curieux, hein ? On a proportionnellement 4 à 5 fois plus de morts, et on teste 4 à 5 fois plus. Et en Islande, bah, on a testé plus de 10% de la population. Autrement dit, en Islande, c'est probablement le seul pays dans le monde où on a à peu près la certitude qu'on a testé tout le monde. Que tous les gens qui avaient le Covid, on sait qu'ils les ont. Donc, on a ce chiffre de 0,55, il est assez important, parce qu'il correspond en gros, à peu de choses près, au taux de mortalité réel en Islande et probablement au taux de mortalité naturel pour une maladie pour laquelle on n'a pas de remède. Et donc, il faut raisonner à l'envers, exactement à l'envers de M. Éloi Laurent, c'est-à-dire de dire, en gros, dans des pays comparables, dans la mesure où les hôpitaux ne sont pas trop débordés, et on peut traiter correctement à peu près tous les gens qui y viennent, ce qui reste à vérifier en France, mais pas avec ces chiffres-là, on doit avoir à peu près le même taux de mortalité, qui doit être entre 0,5 et 1% des personnes infectées par le Covid. Et effectivement, il y a deux études qui, en raisonnant comme ça, sont arrivées à des chiffres de 0,7 et de 0,8% pour l'ensemble de la France. Alors, c'est intéressant parce que ça permet de rebondir aussi. C'est-à-dire que, je vais quand même dire quelque chose sur Éloi Laurent, c'est que sur le fond, il parle de débâcle française. Il dit des choses assez justes en s'appuyant juste sur les mauvais chiffres, sur les très très mauvais chiffres. C'est-à-dire qu'il dit des choses sur le fait que, ce que tout le monde a dit, c'est-à-dire qu'on a déshabillé l'hôpital, qu'on l'a empêché d'être efficace et d'être réactif face à une épidémie comme ça. Mais ce qui est assez marrant, c'est que 0,55, on peut le rapprocher d'un autre chiffre qui a été beaucoup mis en avant par les médias et par Raoult, c'est 0,47. 0,47%, ça serait le taux de mortalité à Marseille, qui, d'après Raoult, enfin parmi les personnes qui ont été testées à l'IHU, serait le meilleur du monde. 0,47, 0,55. Or, on le sait maintenant, Raoult a bidonné ce chiffre. C'est-à-dire qu'il a oublié d'inclure, ou plutôt il a inclus dans parmi les personnes entre guillemets guéries, des gens qui étaient en réanimation et qui depuis sont mortes. Donc le chiffre a été révisé à la hausse, et on est à 0,75 maintenant, et ça va continuer d'être à la hausse, et probablement on va atterrir à 1% à peu près. Autrement dit, non. Raoult, il n'y a pas de miracle d'hydroxychloroquine. Le taux de mortalité à l'IHU, il est le même que dans le reste de la France. La différence, c'est qu'il a un taux de mortalité apparent qui est extrêmement bas. C'est-à-dire que dans les autres hôpitaux en France, où il y a entre 10 et 20, 25% de mortalité, à l'IHU, on est à 1%. Et comment est-ce qu'on est là ? Ben parce qu'on teste énormément. Et on teste des gens qui, normalement, n'iraient pas à l'hôpital et qui ne se feraient jamais tester. Et c'est comme ça qu'on arrive à ces chiffres-là. Voilà. Alors, Raoult bidonne. Raoult a été malhonnête. On en a la preuve. Il y a encore pire. Il y a ceux qui critiquent Raoult. C'est-à-dire la grande étude du Lancet, faite à partir d'études rétrospectives, faite à partir de 96 000 dossiers sanitaires un peu partout dans le monde. Et maintenant, on sait avec certitude que les chiffres sont en partie ou totalement bidonnés. Et c'est la seule étude qui démontrait apparemment, avec un peu de sérieux, la létalité, la mortalité, la dangerosité réelle, importante, de l'hydroxychloroquine et de l'azithromycine, ensemble, qui démontrait que ça augmentait de 40% le risque de mortalité. Or, tous les chiffres sont bidonnés. Donc, on ne peut rien en tirer, rien en conclure. In numéro, il n'y a pas de veritas. Voilà.
Il y a peut-être une statistique qui est plus fiable, qui est celle de la bourse, et de voir les montées et descentes des différents labos qui ont soutenu les uns et les autres. C'est peut-être là la vérité des statistiques.
Alors oui, je n'avais pas précisé, hein, parce que Raoult et les Raoultiens mettent en avant le Big Pharma. Raoult, il roule pour Sanofi. Hein. Sanofi qui commercialise le Plaquenil, qui est la version supermarché et pharmacie de l'hydroxychloroquine. Voilà.
Voilà, bah sur ces non-vérités statistiques, nous allons finir l'émission ici. On remercie Gaël qui nous parle de Versailles, dans son ex-futur Versailles. On remercie Claude chez qui nous avons squatté pour l'émission et toute sa belle technique en place. Jean-Marc aux chroniques, Alex aux chroniques et notre invité Martin Drago, juriste à la Quadrature du Net. Et on va terminer en écoutant un petit groupe français et autour d'une chanteuse qui s'appelle Awaso. Le groupe s'appelle Awaso and the Soul Seeders. Et on va écouter une chanson qui dure 3:07, donc j'essaye de caler pile la fin de l'émission pour écouter une chanson qui s'appelle Yesterday. Remembers it all yesterday, running fully.